Ça peut prêter à questionnement. L'eau, l'énergie, rénovation du patrimoine, éclairage public. Donc ça, c'est le volet très technique. Et j'ai une autre délégation qui est un peu plus secondaire, même si elle m'occupe beaucoup de temps et que je la trouve passionnante. C'est je suis adjoint en charge des cultes. C'est-à-dire que je suis l'interface diplomate de monsieur le maire avec les instances cultuelles.
D'accord. Ce qui n'a rien à voir pour le coup.
Ce qui n'a absolument rien à voir, sauf si on veut aller un petit peu sur le coin de l'extrapolation. Ça reste malgré tout de l'énergie aussi.
Oui.
Voilà. Les spirituels, mais ça reste de l'énergie.
Donc vous faites le lien entre les deux comme ça?
Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux.
Et c'est pas trop bizarre de travailler sur ces deux. Sur ces deux plans totalement différents?
Non, à partir du moment où on est congruent et qu'on est à l'aise sur ce qu'on fait, on sait s'adapter avec une interface de service, une interface technique, une interface culturelle. Là, c'est de la diplomatie, de l'accompagnement vraiment. Ça peut être aussi de l'interface logistique. Si on a une interface culturelle qui a besoin d'un point logistique, de matériel, de salle, etc. C'est être à la disposition et au service du territoire et des citoyens qui l'occupent. Ça ne fait pas l'ombre d'une complication, quelle qu'elle soit.
D'accord. C'est quoi une journée type pour vous, s'il y en a une déjà?
Alors oui, il y en a une. Oui, on peut avoir des journées types. Alors ça peut être des rendez-vous de personnes qui viennent vous voir pour vous présenter un produit, pour vous présenter une action, pour vous présenter une association. Mm-hmm. Vous avez aussi des réunions de groupe. Des réunions de groupe, c'est-à-dire des réunions de groupe politiques, se tenir informé de ce que font les uns et les autres pour être informé. Et éventuellement, parce qu'on est tous un petit peu les porte-parole finalement, quand on est adjoint au maire de Bordeaux, on n'est pas adjoint au maire de toutes les thématiques, mais il faut quand même qu'on soit un peu informé de ce que font nos petits collègues. C'est-à-dire que si on me questionne dans la rue sur une autre thématique que celle de l'énergie, il faut quand même que je sois capable de dire ce qui se passe dans les écoles, il faut que je sois capable de dire ce qui se passe dans les grandes lignes en termes de culture. Si à chaque fois je dis ben, j'en sais rien, il faut aller voir avec l'autre adjoint, c'est délicat.
Voilà,
donc là on est tenu informé.
Et c'est quelque chose que vous trouvez compliqué ça à faire, justement, de vous tenir informé d'absolument tout? Parce que c'est vrai que quand on regarde même les hommes politiques ou les femmes politiques au gouvernement par exemple, ils sont au courant d'absolument tout ce qui se passe, peu importe la question qu'on leur pose quoi.
Non, alors c'est pas un exercice qui est difficile parce qu'on communique quand même beaucoup entre nous. Les adjoints et les autres élus de l'équipe municipale, on est quand même sur des canaux internes de communication. Alors ça va pas chercher très loin, c'est du WhatsApp, du Messenger, des choses comme ça. Donc on se prévient, ça peut aller très vite. Et puis nos bureaux sont tous plus ou moins au même endroit, donc c'est pareil, on arrive à se voir assez souvent, se tenir informé. L'objectif, c'est pas de faire le travail à la place de l'autre, c'est juste de se tenir informé.
D'accord. Vous avez aussi deux conseillers municipaux qui sont délégués.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est?
Alors un conseiller municipal délégué, vous avez, si on fait dans l'ordre, il y a une certaine forme de hiérarchie, même si c'est dans le quotidien pas forcément très très palpable. Vous avez donc le maire. Ensuite, vous avez des maires adjoints ou des adjoints au maire. Donc maires adjoints, ça veut dire maire de quartier. Il y a 8 quartiers sur Bordeaux. Adjoint au maire, ça veut dire en charge d'une certaine thématique. Adjoint au maire en charge de la culture. Adjoint au maire en charge de l'enfance. Adjoint au maire en charge de la petite enfance, etc. Et aussi un adjoint au maire comme moi en charge de l'eau et de l'énergie, des ressources naturelles. Et ensuite, vous avez aussi d'autres élus qui occupent avec des... Ils consacrent moins de temps à leur mandat et ils sont en charge d'une thématique particulière. Donc moi, je travaille avec deux autres, ce qu'on appelle des CMD dans notre petit jargon.
D'accord.
Conseil municipal délégué, il y en a un qui est en charge de l'eau et l'autre qui est en charge de l'énergie. Et on décide ensemble de ce qu'on va présenter aux autres élus.
D'accord.
Voilà. C'est la façon dont c'est construit. Exactement. Et puis de toute façon, le nombre d'élus dans un conseil municipal, c'est régi par un texte national. Vous avez une ville entre 250 et 300 000 habitants, vous avez tant d'élus. C'est comme ça. Et toutes les villes entre 250 et 300 000 habitants en France ont toutes le même nombre.
D'accord, c'est réglementé. Hein.
C'est réglementé. Ouais. Toutes, il y a qu'un seul maire, il y a X adjoints, il y a X, il y a Y conseil municipal délégué. Et ensuite, vous avez aussi les conseils d'opposition.
D'accord, très bien. Alors, vous êtes devenu adjoint au maire en 2020, du coup. Vous étiez déjà engagé en politique avant ça ou pas encore?
Pas du tout, en fait.
Donc, vous venez vraiment de la société civile, pour le
coup. Alors là, un pur produit de la société civile. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question, donc j'ai déjà mes petits éléments de langage qui sont préparés. Non, mais en octobre 2019, Pierre Urmic lance sa campagne. J'ai voulu faire le curieux parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, le territoire de Bordeaux, avec le départ d'Alain Juppé, l'arrivée de son successeur, qui était son premier adjoint, Nicolas Florian, et sentant qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas, il y a une certaine forme d'insatisfaction dans le tissu local. Je me suis dit tiens, ça peut être sympathique d'aller faire un peu le curieux, de savoir ce qui se passe et qui sont les personnes qui vont se proposer à cette course aux élections municipales.
Oui.
Je me suis rapproché d'un seul candidat. C'était Pierre Urmic. Je suis allé on ne peut plus simplement à son meeting de lancement. J'ai répondu à un questionnaire en ligne genre je participe à la campagne.
Ouais.
J'ai été contacté, donc c'était facile. Je dis voilà, Laurent Guimin, 40 ans, bordelais depuis 10 ans, chef d'entreprise dans l'énergétique, père de deux enfants. Voilà, j'ai fait un truc, un tout petit CV pour dire qui j'étais dans les grandes lignes. J'ai été contacté 2 jours plus tard par le directeur de campagne qui m'a demandé si on pouvait se voir. J'ai expliqué ce que je savais faire. Ils m'ont demandé est-ce que ça t'intéresse de faire partie du programme. Je dis oui. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie de la liste? Je dis bah oui. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie de la liste élective? Je dis bah oui. Et ensuite ils m'ont dit voilà, maintenant on est le 28 juin 2020. Est-ce que ça t'est toujours bon?
D'accord.
Voilà, élu.
C'est incroyable quand même.
C'était incroyable. C'était incroyable.
Parce qu'on se doute pas que c'est... Enfin, alors j'allais dire aussi simple, je sais pas si c'est le terme.
Je dirais pas que c'est simple, je pense, et j'aime pas employer ce terme de dire que j'ai eu de la chance ou que c'est du hasard, parce que j'y crois pas spécialement à la chance ou au hasard. Y a des personnes qui mettent 20 ou 30 ans à devenir adjoint d'une des 10 plus grosses villes de France. Parce que c'est mon cas. Moi, je suis adjoint au maire de Bordeaux en charge d'une de la 6e plus grosse ville de France. Donc, c'est pas rien. Et je suis aussi conseiller, je suis aussi à la métropole. Je suis conseiller métropolitain. Donc, du coup, de la 6 ou de la 7e plus grosse métropole de France. Y en a qui mettent 20 ans à arriver là-dessus. Ben, voilà. Ça s'est présenté comme ça. Ça a été aussi un peu une surprise et on s'en est jamais caché, hein. On a gagné à 1400 voix. On n'a pas gagné à 15 000 voix. Je veux dire, ça a été sur le fil. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a pas deux places sur le podium. Il n'y en a qu'une seule. Donc oui, c'était un peu, on avait plus préparé un discours de.
Voilà.
Évidemment.
Oui.
Évidemment. Mais c'est sûr. Mais ça a été, et en plus, ça a été dit. C'est-à-dire que, Pierre Urmic, le dimanche, j'espère pas dire de bêtises, je crois que c'était le 28 juin, le dimanche 28 juin, il est 20h, il avait dit, voilà, il nous envoyait des petits messengers, des petits WhatsApp et tout. On s'est bien battu, je suis fier de vous, c'est chouette et tout, quelle que soit l'issue, je suis fier de vous. Et c'était ça, c'était un peu style, je suis certain qu'on va faire un chouette score, mais voilà quoi.
Il faudra trouver un travail quoi.
Bah, mais c'était un peu ça. Ouais. Et puis finalement, 21h30, ça commence à avoir les premiers résultats, 22h, puis là, 22h30, officiel, résultat bref qui tombe. Alors là, il y avait un silence dans le local de campagne.
C'est marrant quand même. Hein.
Il y avait un silence où tous étaient les 6 ou 7 en train de mettre sur leur tableur Excel. Ils ont recevé les SMS dans tous les sens, etc. Ils disent non, moi j'ai plus 1430. Moi aussi. Oh punaise.
Donc il va vraiment falloir qu'on...
Ah là, c'est maintenant, c'est ça. Et je me souviens très bien d'un truc super qui m'a beaucoup touché parce que mon fils, qui là maintenant a 12 ans, donc à l'époque il en avait 10, il comprenait qu'il y avait un enjeu, il comprenait. Ouais. Il avait compris ce que c'était, qui étaient les gens, etc. Je l'appelle à 23h, je lui fais Simon, on a gagné. Et il était fou. Il était 23h un dimanche soir quand on a 10 ans, c'est tard.
Oui, bah oui.
Et il était hyper fier. Hyper fier. Moi, j'étais fier aussi. Voilà.
C'est mignon tout ça.
Ouais, c'est chouette. Mais vous savez, moi, j'utilise souvent ce terme qu'un élu, c'est un citoyen qui a été élu.
Ouais.
Nada mas. Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Moi, je pense. Alors, évidemment, quand la ville est grande, ça prend des dimensions un peu différentes. Mmh. Mais moi, je suis persuadé, là, concrètement, qu'est-ce que je suis? Je suis un délégué de classe, en fait. Mmh. Moi, je suis dans la classe avec tout le monde. Je vais au cours de maths, au cours de physique, au cours d'histoire, etc. Et je consacre les récré, la préscolaire, l'avant-scolaire et une partie de mes vacances et le week-end pour que la classe se porte bien. Voilà. Et concrètement, un élu, c'est ça.
Et
c'est
pourquoi, ça. Pourquoi vous avez décidé de devenir délégué de classe, du coup?
Ah, pourquoi j'étais persuadé qu'au regard de ce que je savais faire sur les thématiques professionnelles, de l'envie que j'avais, de l'énergie que j'avais, et je trouvais que c'était le bon moment. Voilà, j'avais 40 ans au moment où je me suis mis sur la liste. Là, j'en ai 42, 43 depuis quelques jours. Comme ça. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Alors, mon parcours perso ou pro, avant que ce soit, moi, je suis ingénieur en énergie. Mm-hmm. C'est-à-dire que je suis de Strasbourg, j'ai fait une école en énergie, je me suis spécialisé en réduction de consommation d'eau et d'énergie dans les bâtiments et sur les territoires.
D'accord.
Et je n'ai fait que ça sur toute ma vie professionnelle, de 2003 à 2020, en ayant été soit dans des institutions d'État, soit une grande partie, j'ai été indépendant. J'étais dans un bureau d'études et j'avais des plans, des notes de calcul, des visites de chantier pour qu'un bâtiment consomme le moins d'énergie. Donc, terrain, quoi, concret. Ouais, j'étais pas en train de faire des notes, des synthèses très macro à l'échelle d'un pays, d'un continent ou d'une planète. Là, j'étais dans le dur, dans le concret.
Mais c'est ça qui est intéressant parce que on peut se dire, en tout cas, on peut avoir cette image de la politique qui est quelque chose d'assez abstrait finalement. C'est un peu l'imagerie collective qu'on peut avoir, hein. Au final, vous êtes dirigé vers ça en étant convaincu que ça resterait aussi très concret ce que vous alliez faire.
Exactement. Et je ne fais que ça. Je ne fais que ça, je ne fais aucun rapport quand je les présente au conseil municipal ou en interne ou même je ne fais aucun rapport avec dans 2060, en 2070, oui. Je serai à tant et tant de CO2. Je dis non, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, cette semaine, voilà ce que je fais, ce mois-ci, voilà ce que j'ai préparé. Évidemment, j'ai une intention. Mm-hmm. Je suis parti sur un cap parce qu'il faut bien que le cap soit le guide un peu, c'est l'orientation vers laquelle on se tourne. Mais, c'est un cap qui avait, c'est un secret pour personne. Je suis parti du principe parce qu'il fallait donner un côté un peu packaging sympa sur le 25-25-50. 25% de réduction de consommation d'eau, ouais, et d'énergie, 25% de production d'énergie et de récupération d'énergie, d'eau sur le tissu local, et le 50% qui reste, je le consomme chez un fournisseur d'eau et d'énergie, ce qu'on appelle louable. Voilà, de l'énergie verte. Mmh. Donc, partant de ce principe, on regarde comment est-ce qu'on joue sur les curseurs. Donc, je suis parti sur cette ligne directrice et on l'applique normalement. Au regard des premiers résultats qu'on a aujourd'hui, le 25-25-50 sera tenu.
D'accord.
Voilà.
Et pour revenir sur le moment où vous avez choisi de vous engager, est-ce qu'il y a eu un déclic ? Parce que j'ai l'impression que c'est arrivé un peu comme ça, en fait.
Alors là, maintenant, je m'en souviens plus spécialement. Alors oui, il y a eu un déclic. J'irais plutôt qu'il y a eu une provocation. C'est-à-dire qu'il y a un, parce que quand vous êtes dans cette thématique-là sur un territoire comme Bordeaux, qui est pas un immense, hein, Bordeaux c'est 260 000 habitants, c'est un arrondissement, mm-hmm, de Paris, hein. Ouais, évidemment c'est très connu parce qu'Alvin c'est touristique, mais Bordeaux c'est petit, ouais, en fait. Ouais, ouais. C'est une belle ville, mais c'est une petite, mm-hmm, ville, hein, rapportée à certaines grandes villes d'Europe. Et il y a quelqu'un qui était dans la précédente majorité, qui est aussi quelqu'un qui, je m'entends très bien, hein, c'est un océanographe qui est aussi énergéticien, donc on travaillait sur le même lieu de travail, mm-hmm, voilà, dans un écosystème qui s'appelle Darwin à Bordeaux, qui est super chouette, c'est un tiers-lieu génial, et puis un jour je lui dis oui mais Marc, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Marc Lafosse, et puis je lui dis mais Marc, ça vous avez pas fait, et puis il me dit un truc, et il me dit tu sais quoi Laurent, t'as qu'à te mettre sur une liste. Voilà. Tu arrêtes de râler comme tout le citoyen de base qui arrête pas de me dire qu'on fout rien. Mets-toi sur une liste. Et là, je me suis...
Bah oui.
Bah ouais. Bah ouais. Bah donc ça, c'était en septembre 2019. Ouais. Et fin septembre, je vais au truc de Pierre Urmic.
Ça a été vite, hein.
Bah ouais, ça a été vite. Mais finalement, je le remercie de m'avoir un peu attaqué, oui, sur l'ego, de me dire, bah tiens, il a raison. Tiens, je vais aller voir. Je savais même pas ce que c'était qu'une liste. Oui. Mais j'ai découvert plein de trucs, Une école, non pas une école de la vie, mais une école de la citoyenneté géniale.
Mais justement, vous avez découvert plein de choses.
Ouais.
Il y a le monde de la politique est quand même assez méconnu aujourd'hui, hein, par tout le monde. Bah, j'avoue, moi-même, il y a plein de choses que je connais certainement pas dans, ouais, le fonctionnement. Qu'est-ce que vous avez, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées en fait en arrivant dans ce système-là ?
Alors, plusieurs. Alors, si c'est d'arriver dans...
En tant que citoyen, auparavant.
En tant que citoyen. Alors déjà, le monde de la politique, effectivement, il est particulier et avec le temps, il m'est venu une image. La politique, c'est un peu comme le baseball. Mm-hmm. C'est un sport collectif qui se joue de façon individuelle.
Oui.
Voilà, en gros, eh ben, franchement, pour beaucoup, et je suis très heureux de me dire que c'est pas du tout mon énergie, pour beaucoup, c'est... J'avance pour ma carrière politique.
Oui.
Mais pour ça, vous avez besoin d'un groupe politique, d'où l'équipe de baseball. Voilà, c'est un, mmh, peu ça. Hein. Mais il faut que vous soyez apparenté. C'est-à-dire que vous pouvez être brillant, efficace, parler super bien, avoir plein de bonnes idées, être très efficace pour votre territoire. Si vous n'êtes pas rattaché à un groupe politique, c'est impossible de vous présenter.
Ça, c'est quelque chose qui vous a...
Ah ben, ça m'a fait de la peine.
Ouais.
Je l'ai compris un peu de façon violente. Mmh. Parce que finalement... Vous savez, quand on dit que le monde politique, il est un petit peu critiqué, franchement, on récolte ce qu'on sème, hein.
Ouais.
On récolte ce qu'on sème. Je suis un peu critique, je suis un peu dur et j'ai pas de filtre à le dire là. Franchement, il y en a qui méritent, quoi.
Ouais.
Il y en a qui méritent. C'est des apparatchiks, c'est insupportable, c'est des personnes qui calculent non pas ce qu'ils vont dire, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer cette action derrière. Ce sont des personnes qui passent leur temps à vouloir systématiquement sur les photos, à serrer des pinces, enfin c'est insupportable.
C'est vraiment le cliché qu'on peut avoir.
C'est le cliché qu'on peut avoir et c'est des choses que on avait très en tête. C'est des choses que je vois encore, pas forcément sur l'équipe municipale d'aujourd'hui où on est quasiment pour 95%, on est des nouveaux arrivants en politique.
Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'au final, le fait qu'il y ait beaucoup de politiques aujourd'hui, depuis 2017, qui soient issus de la société civile, ouais, est-ce que ça change un petit peu?
Je pense que c'est indispensable.
Ouais.
C'est indispensable parce que malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui disent non, il faut que les politiques soient des professionnels de la politique. J'ai envie de dire, mais surtout pas. Surtout pas. C'est exactement comme si vous demandiez à un prof d'être délégué de classe. Mmh. Vous vous trompez. Je renouvelle qu'un élu, c'est un citoyen qui a été élu. Voilà. Moi, j'emprunte les pistes cyclables. Moi, je regarde ce qui se passe en termes de propreté. Je ne suis pas coincé de mon bureau à faire à serrer des pinces et à parler de dossiers extra complètement satellisés du monde de la réalité. On a fait des textes avec certaines de nos élus et de nos adjointes sur la tarification de la cantine. C'est concret, quoi. C'est tant et tant de centimes ou de dizaines de centimes par foyer. Là, on est dans le dur. Là, on n'est pas sur des intentions. Voilà, c'est du concret. Là, on parle ensuite nous de rénovation, ça c'est la thématique que je porte, la rénovation énergétique. Oui. Je parle pas de macro projet. Là, je parle de la chaudière de cette école avec ces vitres-là qui vont réduire ça. Alors évidemment, je fais pas cas par cas. On a 1 million de mètres carrés en responsabilité à la ville de Bordeaux, 560 bâtiments. Donc, évidemment, je peux pas m'amuser à passer au peigne fin chacun d'entre eux. Mais pour autant, on parle du préau de l'école de ce quartier-là. On parle de fermer avec l'adjointe en charge de la petite enfance, de fermer 7 rues pour que les enfants, en sortant de l'école, ils soient certains de pas se retrouver nez à nez avec une voiture. Donc, à certaines heures avec des toutes petites barrières, ça a pas coûté grand chose. Hein. C'est vraiment faut désacraliser aussi ça. On a mis des barrières qui ont permis à certaines heures et merci beaucoup au personnel encadrant de l'école et de la municipalité d'avoir joué le jeu, de sortir un peu plus tôt, d'aller fermer les barrières. Oui. Donc évidemment c'est aussi un boulot d'équipe.
Vous parlez de désacraliser. Alors juste avant cet entretien, on discutait un petit peu et vous me demandiez si vous deviez me tutoyer, enfin si on devait se tutoyer ou se vouvoyer, parce que vous aimez bien tutoyer les gens.
Ben oui, je le fais assez spontanément. Ouais. Après, je le fais pas dans tous les contextes. Je le fais pas avec tout le monde. Je tutoie facilement parce que maintenant, finalement, je suis issu du monde du BTP.
Oui.
Voilà, moi j'avais une société de conseil en énergie, c'est-à-dire que je suivais des chantiers, etc. Vous savez, sur un chantier, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Vous faites la première réunion. On se dit, vous, on se regarde, c'est terminé. Oui. À la fin de la première, on se dit, tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça. Les trous pour le forage, c'est toi qui fais. Est-ce que c'est toi qui fais les arbres, la plantation, la couverture, charpente? Ça va vite. Et tutoyer, ça veut pas dire ne pas respecter.
Non.
Ça veut juste dire que on simplifie le schéma de communication.
Mais c'est ce que je trouvais intéressant dans le discours que vous aviez justement avant qu'on commence l'entretien, puisque vous me disiez j'ai bien envie quand même de désacraliser un petit peu aussi la politique, parce que c'est aussi ça, de ça dont il s'agit en fait.
Mais bien sûr, il y a des personnes qui viennent me voir à la mairie en voulant me présenter leur projet, etc. Alors sauf s'ils y mettent un point d'honneur. Mm-hmm. Quand ils disent bonjour, monsieur l'adjoint au maire de Bordeaux, on va se détendre, hein. Laurent, voilà, je m'appelle Laurent, voilà, bon, qu'est-ce que tu proposes? On va gagner du temps, il y a personne, on est trois. On a à peu près le même âge et encore c'est même pas toujours une question d'âge, mais
peut-être que ça permet aussi de parler plus simple, plus facilement,
sûr.
Et même de se livrer peut-être aussi plus facilement,
et comme ça quand il y a des personnes qui posent des questions auxquelles j'ai pas de réponse, j'ai pas d'état d'âme, je dis si je peux je fais, si je peux pas je fais pas.
Mm-hmm.
Voilà. Après vous me posez une question tout à l'heure, j'ai répondu qu'en partie.
Oui.
C'est qu'est-ce que j'ai découvert et qui est particulier. Alors il y a quand même quelque chose qui est génial. C'est ce qu'on appelle les services. Les services, ce sont donc les personnes qui travaillent pour faire, pour animer le territoire. Mmh. Les services, donc, ce sont les fonctionnaires de la municipalité ou de la métropole qui travaillent. Alors, vous avez la vitesse de demande ou d'action du citoyen, qui est 10 fois plus rapide que celle de l'élu, qui est 10 fois plus rapide que celle des services. Parce que les services, ils ont besoin, et ce qui est normal dans plein de cas, ce qui est très difficile à comprendre, mais il y a toujours une logique, mais c'est très difficile à comprendre, parce que l'élu, le service, il doit se dire, je ne peux pas me permettre de faire sortir un dossier ou une décision de ce bureau si ça n'a pas été mûrement réfléchi. En gros, si je dis oui pour la mise en place de ça ici à telle heure, si je suis pas certain ceinture et bretelle, je le fais pas.
Mmh.
Je vous donne un exemple.
Oui.
On a eu un petit, il y a eu un incident sur un événement Pride sur Bordeaux dimanche dernier. Je pense que dans la série de choses, la personne qui avait le char qui s'est cassé la figure sur les deux personnes qui étaient sur, donc le DJ est tombé de son char, vous savez, il y avait des baffles avec la musique, etc.
Ouais.
Il est tombé sur deux passants qui étaient là. Si la personne, Elle avait scrupuleusement respecté la méthodologie de... Alors, c'est vrai que des fois, c'est pompant quand on dit, putain, mais ils m'ont demandé 15 attestations de sécurité. Oui.
Ça peut être fastidieux, oui.
C'est fastidieux, mmh. mais c'est pas innocent. C'est pas innocent parce qu'on peut se dire que c'est un 15e rappel, de 15e demande. Il faut être ultra sérieux parce que ensuite, les incidents sont à des proportions délirantes.
D'accord.
Et ça, j'ai du mal à le comprendre parce que la réactivité est difficile, mais je le comprends très bien sur le volet précaution. Et je vous donne ça, c'est l'issue de mon passé. Moi, j'ai été dans le bâtiment.
Oui.
Donc, il fallait que les plans soient rigoureusement bien faits, que les notes de calcul soient très claires, que tout soit bien, bien, bien étudié avant de commencer à donner un premier coup de pioche, parce que l'erreur prend des proportions délirantes si elle n'a pas été anticipée.
Il y a plein de choses en fait qui se
bien sûr,
mais corrèlent, si on peut dire, à la vie politique.
Bien sûr, mais bien sûr. Après, on fait part de son expérience de vie. Il y en a peut-être d'autres qui ont eu d'autres expériences de vie qui leur permettent d'être à l'aise et qui ils se servent de leurs acquis de vie, d'expérience et professionnelle et perso pour que leur mandat se passe le mieux possible. Moi, j'utilise un peu la rigueur de ma précédente vie professionnelle.
Et vous en êtes content du coup aujourd'hui d'être arrivé là où vous êtes aujourd'hui?
Très honoré.
Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez continuer à faire longtemps ou alors vous avez dans l'idée de faire ça encore jusqu'à la fin du mandat et puis après peut-être passer à autre chose déjà?
C'est une bonne question. On se pose tous cette question-là. Ouais. Alors moi, je suis très honoré parce que c'est très flatteur. Déjà, vous avez l'ego qui parle. Hein, vous savez, quand monsieur l'adjoint au maire de Bordeaux. Alors, et du coup, quand vous êtes représentant du maire de Bordeaux, c'est monsieur le maire de Bordeaux. Là, aujourd'hui, je suis à votre micro et ce matin, j'étais en représentation officielle de monsieur le maire à une commémoration sur Jean Moulin.
D'accord.
Au Panthéon.
Oui.
Donc là, vous avez la chorale militaire, vous avez les porte-drapeaux, vous avez le représentant du ministre, vous avez la préfète, la sous-préfète, vous avez toute une ribambelle de personnes très protocolaires, etc. Monsieur Guillemin, il faut dire ça ici, à ce moment-là, mettez-vous ici, vous avez une petite marque au sol. Donc c'est hyper impressionnant, ce qui explique, je sais pas si ça vous a échappé, j'ai encore ma petite, mon petit truc bleu-blanc-rouge là
effectivement.
Sur la pochette, voilà.
Oui,
voilà.
Sur la veste.
Et donc là, c'est hyper valorisant. Après, personne vous en veut si vous êtes maladroit ou secret des malades, c'est parce que je suis élu. C'est-à-dire que je n'ai pas fait comme travail, comme chemin professionnel d'arriver finalement à ça et donc d'apprendre. Vous êtes élu, il n'y a pas d'école pour être élu. Hein.
Ouais.
C'est, vous faites une campagne, vous la gagnez, le lendemain, vous avez les clés.
Donc on peut tous l'être.
Évidemment, et moi j'invite le plus largement possible les personnes à au moins s'intéresser et deuxièmement à oser pousser les portes. À oser pousser les portes, parce que c'est pas si compliqué que ça.
C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui dans ce contexte où, au moment où on enregistre cet entretien, on est dans l'entre-deux-tours des législatives.
Ouais.
Et une abstention folle au premier tour, une abstention qui risque d'être aussi encore assez grande hein, quand même au second tour, a priori. C'est d'autant intéressant dans cette période-là d'essayer vraiment de s'intéresser à la politique, de la rendre intéressante en tout cas. C'est aussi peut-être ce que vous essayez de faire.
Bah, tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment désacraliser ne veut pas dire émousser l'importance que j'accorde à la politique. Hein.
Oui.
Quand j'ai employé ce terme-là, c'est désacraliser, ça veut dire que la politique, c'est des affaires quotidiennes, c'est des choses simples. Je vais raconter une anecdote encore. J'en ai plein des
anecdotes.
Après, vous me direz si vous coupez, vous coupez
mais
pas.
Ne vous inquiétez pas,
bon,
c'est très bien.
Il y a quelqu'un qui est un petit apiculteur des bassins à flots à Bordeaux, donc il vit sur sa péniche, et il m'a envoyé un jour un messenger. Monsieur, il a 65 ans.
Oui.
Monsieur Guillemin, avec son accent espagnol à couper au couteau, un petit bonhomme à 1m65, gentil comme tout. Monsieur Guillemin, j'ai vu que vous étiez sur les toits de la base sous-marine, parce qu'effectivement, on a un super projet sur les toits de la base sous-marine. Mon rêve d'il y a 15 ans, y mettre les ruches que j'ai d'abeilles noires. L'abeille noire, c'est une abeille qui est sauvage, qui est pourtant dans une ruche qui a été fabriquée par l'homme, etc. Donc c'est exactement ce qu'il faudrait mettre en milieu urbain, sans que ce soit toute une série de ruches, parce qu'elles sont assez décriées, les ruches en milieu urbain. Voilà, c'est mon rêve de 15 ans, etc. Je regarde son petit messenger, je dis, ok, bah, passez à l'hôtel de ville mardi 15h, on discute. Il arrive avec un dossier qui, visuellement, était... très perfectible, on était loin de la grosse com. Tout était clair, tout était carré. C'était il y a quelques mois de ça, moyennant quelques allers-retours pour savoir, parce que du coup, c'est un toit qui n'est pas accessible par le public. Hein, donc, il a fallu qu'on... Et ben là, il y est. Ces ruches, elles sont là. Il nous les a montrées cette semaine. Donc, il me dit, mais c'est incroyable. Ça fait 15 ans que je rêve. Je dis, mais comme quoi, tout est possible.
Oui.
Franchement, votre dossier, il était propre, il était clair et il n'y a eu aucune complication. Il a juste été congruent dans son projet. Il est là. Eh ben c'est un peu le même parallèle. Vous êtes convaincu, impliqué. Il faut aussi un peu disponible hein, parce qu'il y a
J'imagine.
Faut savoir. Bah non, mais quand vous démarrez là-dedans,
oui.
Moi j'ai mis en stand-by un paquet de dossiers.
Ouais, hein, on va en parler justement. Oui, voilà.
Et donc du coup, j'ai fait le pari de dire j'ai annulé toutes mes associations pendant un an. Tout le perso, etc. J'ai une petite femme qui s'est beaucoup du coup occupée des enfants, etc. Pour me permettre d'être quasiment là tous les soirs au local de campagne pour faire le etc. etc. Donc j'ai investi du temps aussi, mais j'en ai pas investi pendant 15 ans. C'est-à-dire que finalement, c'est possible. Voilà, c'est possible.
C'est vraiment accessible, quoi.
C'est accessible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abstention, mais il faut prenez le temps d'aller taper à la porte de vos élus. Voilà, prenez le temps d'être curieux, prenez le temps de savoir ce qu'ils font, prenez le temps de, plutôt que de décrier, allez faire les curieux.
Et parce que sans parler forcément de la politique au niveau ministériel ou gouvernemental, il y a aussi cette politique-là, la politique vraiment du territoire, des conseillers municipaux ou autre, quoi.
Bien sûr, ça c'est du terrain. Moi je suis à Bordeaux, alors je suis à Bordeaux et à la métropole, ce qui est des fois un peu frustrant parce que j'aimerais bien pouvoir un peu sortir de la métropole de Bordeaux, mais je reste concentré sur mon territoire. Mais c'est du terrain pur là, et puis c'est chouette, quoi. C'est hyper valorisant, les gens qui vous attendent. Et des fois il y a des personnes, elles vous font venir juste pour le plaisir que vous soyez là, l'inauguration, truc. Ils attendent rien de moi, d'autre que de la représentation, de la considération, d'être là, etc. Voilà, c'est tout.
Vous évoquiez votre vie privée, qui a priori n'existe plus trop.
Moins.
Comment est-ce que vous arrivez, si vous y arrivez, à trouver encore un peu de temps dans votre vie privée? Comment vous conjuguez vie pro, vie privée?
Alors, j'ai deux loisirs qui sont importants pour moi et que j'ai mis très fortement en stand-by, qui sont la musique.
D'accord.
Je suis même, j'étais en 2019, j'ai même été lauréat d'un petit tremplin de chansons françaises découvertes le temps de ce matin en Alsace.
D'accord.
Et j'ai même pu me produire donc dans ce festival-là. J'ai même pu me produire à Constance en Allemagne. Je suis sur quelques petites radios, radios de petite envergure, pas aussi prestigieuses que votre radio évidemment. Et donc j'avais mes petites chansons, mes compos, ma chaîne et tout. Et puis c'était chouette. Puis j'ai mis ça en stand-by, ce qui me pèse un peu, ça me manque beaucoup, c'est sûr, mais bon, je compense d'une façon différente.
Et vous n'écoutez, parce que du coup, j'imagine que vous écoutez de la musique aussi. Vous la consommez beaucoup?
Je la consomme peu.
Peu.
Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup orienté. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant y aller à fond. Donc c'est vrai que maintenant, ce que j'écoute, c'est trop peu de musique. Mmh. C'est beaucoup plus moi, je suis très axé sur l'énergétique et l'environnement. Donc c'est très important pour moi de maintenir un peu le rythme, de savoir ce qui se passe un peu ailleurs. Donc j'ai des veilles de qu'est-ce qui se passe dans d'autres villes, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, comment est-ce que les gens avancent, évoluent, des choses qui me plaisent. C'est vrai que moi, je dis pas que je suis un gros consommateur de chaînes politiques. Oui, à partir du moment où elles sont constructives et terrain. Je vais pas à la pêche aux émissions radio ou télévisuelles de politique politicienne.
Oui.
Qui ne m'intéressent pas et qui, je pense, n'intéressent personne, si ce n'est ceux qui les fabriquent, quoi.
Donc, j'allais vous demander si la musique vous aidait quelque part dans votre travail.
Alors oui, alors de façon très étrange. Ah mais oui, elle m'aide un petit peu. Et alors aussi sur celle que je fais, parce que de bouche à oreille. Alors c'est pour ça qu'on voit que Bordeaux c'est un village quand même.
Ouais.
De bouche à oreille, il y a certaines personnes qui ont retenu que j'avais fait pour certains mariages. J'avais sorti la gratte. J'avais sorti la gratte pour des mariages. C'était pour des amis. Et de bouche à oreille, ça s'est su. Et il y a même des personnes qui m'ont demandé à ce que je les marie. Et j'en marie samedi.
Ah là, c'est marrant.
J'en marie samedi. Et ils m'ont dit, est-ce que tu pourras nous faire un morceau de musique? Et je vous jure. Donc du coup, et ça m'arrive souvent de sortir.
Pour pouvoir dire, là, je vois Robert à jouer de la musique à mon mariage.
La grande classe. Vous avez quelqu'un en costard cravate avec le bandeau tricolore et qui a sorti la guitare pour leur faire un petit morceau de musique.
Du coup, vous parliez de deux grandes passions.
La voile.
La voile.
Voilà, ouais, la voile, c'est effectivement quelque chose que je fais depuis des années. J'ai la chance d'être propriétaire d'un tout petit bateau sur un lac à côté de Bordeaux. Et ce bateau, je le mets beaucoup en dispo des copains pour qu'il tourne un peu, mais je m'en sers trop peu. Alors qu'à l'époque, je faisais une vingtaine de sorties par an. Là, si j'en fais 5, c'est le bout du monde.
On va passer à une séquence qui s'appelle le vrai ou faux. Alors, c'est très, très simple.
Ouais.
J'ai lu certaines choses sur vous sur Internet.
Ok.
Vous allez tout simplement me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses.
J'en vois déjà une qui arrive.
Ok, alors attention.
Allez-y.
On va commencer. Donc, ça, je crois que vous ne m'en aviez parlé tout à l'heure. Vous avez été conseiller de quartier à Bordeaux entre 2009 et 2012.
J'ai été conseiller de quartier pour un élu effectivement de la précédente équipe qui avait besoin sur le quartier de personnes un peu pragmatiques, terrain, terre à terre, etc. Je l'avais fait cette mission-là. Je l'avais fait un peu en dilettant parce que je m'étais assez vite lassé, non pas que la personne qui était l'élu de quartier n'était pas intéressante, c'est juste que je trouvais ça très long, très fastidieux, très chronophage, et je passais beaucoup de temps à finalement écouter un peu les pleurs des uns et des autres, et ça m'intéressait pas beaucoup à ce moment-là. Donc je l'ai été, pas de façon très assidue, mais je l'ai été, et je n'avais pas encore compris à ce moment-là ce que c'était que la politique. Oui. C'est pour ça que vous m'avez demandé, est-ce que je suis né, nouvel arrivé en politique? Oui, sur de la politique opérationnelle, non, parce que je connaissais, c'était un maire de quartier, donc je savais qu'il y avait des maires de quartier, je savais qu'il y avait...
Ouais.
Voilà.
D'accord. J'ai lu que vous étiez intervenant au Compagnon du Devoir.
Comment vous savez ça, vous?
Fais les petites recherches.
Comment vous savez ça? C'est fou, ça.
Ah, dis donc, ok.
Mince. Alors, je suis en train de réfléchir où est-ce que j'ai pu mettre cette information. Alors, quand j'ai...
Pour être très honnête, j'ai trouvé sur votre profil LinkedIn.
Ah, d'accord. Voilà. Ok, bah, super. En fait, il y a longtemps de ça, j'ai été contacté par les Compagnons du Devoir sur Bordeaux.
Oui.
Et qui m'ont demandé de venir leur donner des cours parce qu'il leur fallait des personnes qui étaient des artisans, puis des personnes qui étaient des architectes, puis des personnes qui étaient des concepteurs de systèmes énergétiques comme ce que j'étais. Et donc j'ai décidé pendant quelques saisons finalement de leur offrir les quelques jours par an, parce que bon, quand vous avez une société, vous facturez à la journée.
Oui.
Donc je leur offrais, que je dise pas de bêtises, pendant 3 ans, j'ai offert 3 jours ou 4 jours par an, ce qui est pas énorme non plus. Hein. Finalement, ça, je trouvais ça chouette de pouvoir dire que je mets à disposition mon savoir de façon gracieuse pour ces personnes qui vont être parmi les artisans à tous les sens du terme du monde énergétique et bâtimentaire qui arrive.
Ouais.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, on a un tel écueil, on a un tel manque de personnes sur le terrain. On manque de plombiers, on manque d'étancheurs, on manque de couvreurs, on manque de plein de choses. Donc, je trouvais ça chouette de pouvoir un peu les encourager en leur diffusant cette énergie, en ce mauvais jeu de mots, sur ce que je faisais.
Donc, du coup, c'est intéressant parce que ce problème de, peut dire, de désindustrialisation,
ouais,
c'est quelque chose qui vous était déjà, qui vous touchait déjà quelque part.
C'est une erreur, c'est une grossière erreur. Après, je suis pas un fin stratège politique. Mmh. Quand je dis ça, j'ai pas fait de grandes études politiques, mais pour autant, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Ouais.
Il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on est parti du principe que l'industrie, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de moche, c'est quelque chose de polluant, c'est quelque chose de dégradant, et qu'il ne faut faire que des missions très intellectuelles, très en bureau, etc. C'est une grossière erreur.
Mmh.
C'est une grossière erreur. Pour revenir, c'est que l'Allemagne, évidemment, a aussi, est allée dans ce sens-là, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, il n'y a rien de choquant à construire sur notre terrain, sur notre territoire national, des choses dont on a besoin. Aujourd'hui, on en souffre, mais on n'ose pas tant que ça le dire, en
ouais.
fait. En fait, si vous regardez, il y a un jour un marchand d'instruments de musique qui avait publié des choses très rigolotes. Il avait pris son magasin, il avait fait avant-après. Mmh. Il a dit, regardez, je vais prendre une photo de moi dans le magasin, donc il est bras croisés avec des instruments derrière, etc. Et ensuite, il va enlever tout ce qui n'est pas fabriqué en France.
D'accord.
Il était tout nu et il avait une feuille de papier sur ses parties intimes.
Ah bah oui.
Il n'y avait plus rien dans son magasin. Plus rien. Quel dommage.
Ben oui.
Quel dommage. Quel message on fait passer.
D'autant que le concept de Made in France aujourd'hui revient vraiment. C'est quelque chose qui manque aux gens.
Ben, il manque aux gens, mais il a été très remis sur le tapis par les mêmes personnes qui l'ont enlevé, quoi.
Mmh.
Enfin, franchement, mais c'est une énorme mascarade. Mmh. Ayons le courage d'aller au bout des choses. Industrialiser ne veut pas dire faire les choses de façon rabaissante, etc. Des gens, s'ils veulent aller à 14, 15, 16 ans en apprentissage, mais qu'ils aillent à 14, 15, 16 ans en apprentissage, c'est très bien. Et puis, si 15 ans plus tard, il estime que ça fait 15 ans qu'il bosse et qu'il veut faire autre chose, mais qu'il fasse autre chose. Moi, j'ai déjà quasiment 3 vies en ayant 43 ans. Et puis, il y a des personnes qui, ça se trouve, il va être chef d'entreprise demain, s'il veut travailler dans un com, s'il veut faire autre chose, j'en sais rien. C'est tellement plus simple de faire ce qu'on sent bon pour soi plutôt que de chercher à se freiner. Combien on a de personnes sur les pages, sur les réseaux sociaux qui vous disent « crise de la quarantaine, j'en ai marre, j'étais chargé de com dans le e-startuping, je sais pas trop quoi, en région parisienne, j'en ai marre, je suis allé faire de la poterie dans le Gévaudan ». Enfin, voilà, donc on en est là. C'est plutôt d'attendre, de devoir souffrir. Alors attendez, j'ai peut-être une anecdote là-dessus qui dit « n'attends pas que ton corps crie pour l'écouter ». Enfin, c'est quelque chose comme ça. Écoute-le murmurer. Et voilà, faut savoir écouter ses besoins, ses envies, même si on n'a pas forcément une raison, savoir écouter son instinct, se faire confiance. Moi, à ce moment-là, quand il a fallu être adjoint, j'ai eu peur un peu le 28 juin 2020. Je me suis dit, oh putain.
C'était une prise de risque?
Je me suis dit prise de risque, mais je le sentais.
Oui.
Je le sentais, je dis, Lolo, fais-toi confiance. Franchement, ça va. Donc, vas-y. Donc, effectivement, j'ai voulu un peu mettre en stand-by ma boîte. Puis finalement, j'ai fini par la fermer. C'était impossible. Faut pas dire à des clients, je suis dispo que le mardi et le vendredi. Oui. Quoi. Ouais. Sauf si vous êtes, bah, par exemple, si vous êtes prof, vous pouvez vous arranger pour que vos jours de machin, etc. Mais moi, j'avais rien. Hein. J'étais indépendant. Ouais. Vous pouvez pas dire aux gens, bah non, tes plans et tes chantiers, je te le ferai que le mardi et le vendredi. C'est pas possible. Et puis donc, j'ai fait ce choix-là. Mais faut se faire confiance, quoi. Faut se faire confiance. Vraiment.
J'ai aussi lu, que vous viviez sans frigo.
Ah putain, mais comment vous savez ça vous...
C'est un truc de dingue.
C'est et mon travail
ça,
après. Hein.
Et c'est marrant parce que vous savez, à chaque fois chez Ardisson, ils se disaient, mais quand Ardisson, il y avait des nouvelles oui. machin, et puis, ils disaient, mais comment il sait ça? Mais comment vous savez ça, Thierry? Comment vous
et
savez
bien
ça
voilà.
Alors effectivement, il y a quelques années de ça, je suis devenu végétarien parce que j'ai pris une conscience avant tout environnementale. Alors la souffrance animale, évidemment, me fait de la peine.
C'était avant d'être adjoint au maire
Oui, bien avant. Oui, d'accord. Bien avant. C'était en 2014-2015, je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc c'était à l'époque où je me suis séparé de la mère de mes enfants, donc j'ai un peu remis à plat la façon dont je vivais, etc. Et puis je suis devenu végétarien par des rencontres, mais de façon très fluide, très simple, absolument pas culpabilisante, etc. Ouais. Et je me suis dit que, au gré du temps, mon frigo était de plus en plus vide. Je faisais mes courses beaucoup plus souvent. Je faisais mes courses 3 fois par semaine, mais c'était 3 fois 20 minutes, quoi. C'était rien. C'était l'usuel, etc. À chaque fois que je rentrais en vélo, je m'arrêtais un peu à l'épicerie, un peu au marchand de, hein, et je faisais mes trucs. Et je stockais quasiment plus rien. Et j'avais quasiment plus rien dans mon frigo. Et à un moment, j'ai dit, tiens, je vais juste voir. Viens, je l'éteins. Et je l'ai éteint. Et le seul truc qui posait un peu souci, c'était le beurre.
Ouais.
Après, les gens me disent, comment tu fais pour ta petite bière et tout? Alors, je dis, bah, si je veux vendre une petite bière, bah, je descends au café du coin, je vais me prendre une petite bière avec mes potes.
À consommer avec modération.
À consommer avec modération. Merci. Bon, sachant que je suis pas un gros amateur d'alcool. C'est un secret. Là, vous auriez pu me poser cette question. Ah, je suis pas, non, c'est pas mon truc. Et puis, en fin de compte, il y a le beurre. Puis j'ai trouvé un beurrier qui était dans un espèce de bain de sel, bain d'eau, de sel, etc. Donc, du coup, le beurre ne fondait pas.
Oui, donc vous avez trouvé une alternative.
J'ai trouvé une alternative. Et donc, du coup, ce frigo, je l'ai débranché. Une semaine, deux semaines. Je mettais hors saison, un peu quand il faisait frais, je mettais mes aliments sur le balcon, etc.
Oui.
Tout s'est très bien passé pendant des années. Et donc, tout a roulé. Après, j'ai refait ma vie avec quelqu'un depuis 3 ans qui, disons, n'est pas dans un élan environnemental comme je suis, même si elle a de nombreuses qualités. Je l'embrasse du fond de mon cœur parce qu'elle est magique, évidemment. Elle a dit, je veux bien certaines choses. Veggie, ça me pose pas de soucis, j'étais pas très attaché. Le fait de faire nos produits ménagers, ça me va. Le fait de faire certains trucs, ça va. Toi, t'es très, tu fais tes petits plats, légumes, t'as aucun plat cuisiné. Tu veux faire tes coups, tes gâteaux, tes machins, etc. T'aimes pas les emballages. Je veux bien. Par contre, le beurre. Par contre, le beurre, je veux bien quand même que les aliments tournent pas. Donc, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai rebranché ce frigo, ce qui a été d'âpres discussions. Hein. Ça a été, pour moi, c'était très symbolique, ce frigo. Donc, il est rallumé. Il est rallumé, mais enfin bon, j'ai envie de dire qu'il y a tellement d'autres choses que j'ai su conserver dans mon chemin de vie que ça va. Oui. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est particulier. Je fanfaronne pas trop du fait de l'avoir rebranché quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avant toi qui disent « Ah, c'est vous qui vivez sans frigo ?» Je fais « Ouais, c'est moi. » Puis je dis pas que je l'ai rebranché, mais...
Est-ce que c'est pas un échec quand même? Vous le vivez pas comme ça?
Je le vis pas comme un échec. Après... Si vraiment, parce que là je suis toujours locataire, si vraiment j'avais dû être chez moi, j'aurais fait une petite cave un peu enterrée.
Oui.
Et je, c'est pas une question de consommation d'énergie, c'est une question de besoin en fait. C'est pour moi, c'est le genre de choses. C'est-à-dire que vous stockez de l'alimentation. Stocker, pour moi, c'est dommage. Je préfère, je dis pas acheter au jour le jour, mais pratiquement.
Ouais.
Voilà. J'ai pas besoin de stocker 3, 4, 5, 10 jours de nourriture. Si vraiment j'ai besoin, bah, j'ouvre une conserve qui traîne au fond d'un placard et puis roule, quoi.
Et vous dites que c'est pas par conscience environnementale ou autre, mais quelque part, un petit peu quand même.
Simple is beautiful.
Voilà. Très bien.
Plus c'est simple, plus c'est, voilà. C'est pas la peine d'avoir 25 chemises dans votre dressing. Et alors, ça va peut-être faire, et vous allez regarder sur un post Facebook, j'ai qu'une cravate.
Ah bon,
j'ai celle-là, j'ai jamais défait le nœud. Je l'ai acheté pour le début de mon mandat, j'ai jamais défait le nœud et j'en ai qu'une en fait, voilà.
Ah oui.
Mais ça m'a très bien, c'est très bien.
On est vraiment dans l'économie quand même.
Bah, c'est pas l'économie, c'est pas la peine d'en poser.
Ouais.
C'est pas la peine, voilà.
J'ai une dernière question à vous poser.
C'est un oui-non vrai-faux, c'est ça?
Alors non.
D'accord.
C'est la dernière question qu'on pose à tous nos invités dans ce podcast. C'est peut-être la plus difficile, hein, je vous préviens. En 3 mots.
Ouais.
Quel citoyen êtes-vous?
Congruent, énergique, impatient.
Très bien. Impatient, c'est curieux quand même.
Bah, impatient, je suis quelqu'un de très impatient.
Vous avez envie que les choses aillent un peu plus vite quand même
évidemment,
dans...
Mais tout le monde, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un citoyen, il va 10 fois plus vite qu'un élu, qui va 10 fois plus vite qu'un service. Ouais. Malgré tout, tout élu que je reste un citoyen, je suis impatient. Voilà, moi, des fois, quand il y a des choses, ils me disent, OK, ben, alors là, on est en juin, ben, on va sortir le truc en janvier. Je dis quoi? Mais 7 mois pour sortir un truc pareil? Et alors, même, ce qui m'a valu quelques reproches quand même, parce que c'est vrai que mon impatience m'a joué un peu des tours, ayant des compétences techniques.
Oui.
Ayant des compétences de dimensionnement, de dessin, de calcul, de cahier des charges dans le bâtiment, etc. À un moment tellement j'ai été impatient, j'ai fini par faire le boulot des personnes qui sont dans les services.
Oui.
Et donc, du coup, je leur ai diffusé, je dis voilà, vous m'avez dit que c'était en 6 mois. Moi, je l'ai fait ce week-end. C'est fait. Vous le mettez en place. Alors là, du coup, vous avez le chef des chefs des, ce qu'on appelle un DGS, le directeur général des services. Donc
oui.
Ça, c'est le numéro 1 des fonctionnaires dans le service de la, qui t'appelle, il dit, Laurent, on prend un petit café demain matin, je t'explique. Tu peux pas envoyer ça au service. Oui. Tu peux pas, parce que tu les désavoues, tu les décrédibilises. En plus, au-delà de ça, ça veut dire que vous savez pas bosser, vous savez pas avancer, etc. Ils sont tous très sympas. Ils avancent comme ils peuvent en fonction des freins, faut être honnête, et des barrières qu'on leur met.
Eh ben très bien, ben merci beaucoup
avec
Laurent
plaisir.
Guillemin d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes adjoint au maire de Bordeaux chargé de la sobriété dans la gestion des ressources naturelles.
C'est ça.
Voilà. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur 8FM pour un nouvel épisode de votre podcast Entrevue citoyenne.
Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas.
Merci à vous.
Au revoir.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Bonne nuit sur 8FM, voici votre musique préférée.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh.
это.
It's whatever you like. Turn this appetite to a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come back, come back, girl, what's up?
Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Baby, don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Les défis de la parentalité.
Les défis de la parentalité, épisode 5. Après les écrans, l'alimentation, la gestion des émotions et les sujets difficiles, place dans cet épisode à la question de l'orientation scolaire et de l'avenir de nos enfants. Comment préparer l'avenir professionnel de nos enfants? Le choix de son orientation scolaire et professionnelle n'est pas une chose facile à appréhender pour les adolescents et leurs parents. La question se pose à plusieurs moments de notre parcours scolaire, du passage de la troisième à la seconde ou bien à la fin de la terminale. Et si pour certains, l'avenir est déjà tout tracé, pour d'autres, c'est parfois le blackout total. Alors comment, en tant que parent, peut-on accompagner nos enfants vers le chemin de la réflexion? Nous avons posé la question à Clémence Nommé, psychologue spécialisée dans la parentalité et l'orientation, avec plusieurs cas de figure et notamment celui-ci. Et si mon enfant n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard? Écoutez Clémence Nommé.
Faut être à l'écoute, montrer qu'on s'y intéresse, parce que parfois il y a certains parents, justement, ils ont tellement peur de projeter et de faire les choix à la place de leur enfant, ils vont dire alors là je sais pas du tout, je te vois dans rien de particulier, j'en sais rien, et ça peut angoisser pas mal l'enfant en se disant bah mince, en fait il y a rien qui me correspond, mais pourquoi il trouve que rien m'irait, et du coup voilà, faut être dans un équilibre un petit peu en faisant des propositions, en donnant des idées, en restant ouvert aux idées aussi de l'enfant, être dans un échange, dans un partage, donc pas mettre de pression mais montrer qu'on est intéressé et qu'on se questionne aussi.
Le dialogue est donc le maître mot, selon Clémence Nommé, mais attention toutefois à ne pas tomber dans le harcèlement, l'idée n'est pas d'en faire une obsession.
Ce qui est important déjà, il ne faut pas braquer effectivement le jeune avec des questions incessantes, c'est plutôt montrer qu'on est là, on est à l'écoute, et puis proposer peut-être « Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un salon là de l'orientation, ça te dit qu'on aille ensemble, y faire un tour ?» Et après je dirais que le salon c'est un peu le premier pas. L'intérêt du salon c'est plus de retenir les petites choses qui ont commencé à intéresser finalement le jeune et après de pousser vraiment vers les portes ouvertes spécifiques de la formation pour qu'il aille dans le lieu, qu'il voit les autres étudiants, qu'il discute avec des jeunes, finalement avec des jeunes avec qui il pourra échanger plus facilement et se sentir plus à l'aise peut-être qu'avec ses parents, qu'il aille à la rencontre d'un établissement pour aussi sentir une ambiance et avoir un ressenti, lui, en sortant, est-ce que je m'y suis senti bien? Est-ce que je m'y suis projeté? Ou est-ce que ça ne me correspond pas?
Les parents sont également invités à se tourner vers des équipes éducatives ou bien vers un proche avec qui le jeune se livre plus facilement. Et autre cas de figure, et si mon enfant choisit une voie professionnelle utopique? Devenir acteur, footballeur ou même influenceur, vos enfants ne seront pas les premiers. et les derniers à nourrir ses rêves. Mais pas de panique, une fois encore, tout est dans le dialogue.
C'est de questionner le pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse dedans. Et puis on peut creuser peut-être des métiers qu'il pourrait y avoir autour, qui peut permettre au fil de temps de voir si peut-être ça serait possible dans l'avenir, mais de choisir une voie qui va lui permettre de rester ouvert, de ne pas se fermer de porte, pour lui faire prendre conscience qu'on n'est jamais sûr finalement sur ces filières-là, parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, et donc qu'il vaut mieux s'ouvrir à d'autres horizons. Et puis qu'en plus, il y a tellement une multitude de métiers, de possibilités, c'est d'essayer de leur ouvrir, en fait, sur les ouvrir sur d'autres horizons, du coup.
Écouter, échanger, respecter et encourager, voilà donc les clés pour aborder la question de l'orientation scolaire sereinement, peut-être aussi en s'y prenant plus tôt. Inutile d'attendre que ce soit l'heure de faire ses vœux sur Parcoursup pour s'y intéresser. Et pour rappel justement, Parcoursup, les terminales ont jusqu'au 3 juillet pour classer leurs vœux sur Parcoursup et jusqu'au 7 juillet pour accepter une proposition d'admission. C'est la fin de ce dossier sur les défis de la parentalité. Vous retrouvez évidemment tous nos épisodes en intégralité sur notre site internet en podcast. Très bonne écoute à tous.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur 8FM pour écouter votre musique préférée.
Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working, why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. Two-stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels. Downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar.
Ici, c'est 8FM.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Makes paintings with his tongue.
grief separation. Your eyes and feel his lips, you're feeling mine. And every time you breathe his air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice. And singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together. And if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you.
De passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Les défis de la parentalité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on va parler parentalité, ce lien unissant un adulte et un enfant dans le but d'assurer l'éducation, le développement et le bien-être de ce dernier. L'épisode 1 est consacré à la question des enfants